Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis en compagnie du grand, du seul et unique Marc-André Jutras. Comment vas-tu?
Je vais très bien, le micro pointait vers le ciel, j'étais désemparé, mais j'ai repris le contrôle de la situation. Et on vient d'écouter Blondie, One Way or Another.
Oui.
C'est qui Blondie? C'est Clem Burke Drums. Jimmy Destri, keyboard. Nigel Harrison, bass. Debbie Harry, la séduisante blonde, au vocal. Frank Infante à la guitare et Chris Stein à la guitare.
Excellente
disco,
pièce.
New Wave,
ouais.
Rap, punk, name it, Blondie, c'est ça.
Oui, c'est l'histoire du rock, l'histoire du punk.
De tout.
Ouais.
Tout est là. Et là, pourquoi que je mets cette toune-là? J'aurais pu mettre Rapture qui introduit un peu le rap, ben toute cette époque-là, le new wave, la fin du disco, le new wave, le punk, c'est là que le graffiti est apparu.
Aha!
À Nueva York, NYC.
Oui.
New York Hardcore Represent. Mais là, on avait le penchant ici même, aussi, à Montréal. Je te dis, le parrain du graffiti montréalais.
Vito Corleone.
El Padrino. Non, le Padrino des ruelles n'est nul autre que M. Zilon.
Zilon, OK, OK.
Et là, moi, j'avais été voir une exposition et il y a un livre que je voulais lire absolument. Et pendant l'été, j'ai eu le temps de le lire. Ça ne m'a pas pris l'été de le lire, ça m'a pris une journée. Je l'ai dévoré. C'est un petit livre quand même tout mince, tout sympathique, écrit par Jean-Marc Beausoleil. S'intitule...
C'est lui, Zilon?
Non. Non, c'est on ne dira pas son véritable nom. C'est comme Zorro, on ne peut pas dévoiler son identité.
On
ne
le connaît pas ou tu ne veux pas le dire?
On le connaît. Et la marque Zilon. Fait que c'est écrit aussi en collaboration avec Zilon parce qu'il a été, interviewé pour le livre et c'est paru sur les éditions Somme Toute. Et là, que dire? Je vais vous lire tout simplement le quatrième de couverture et ça résume très bien à quoi on doit s'attendre d'une lecture du parrain du graffiti montréalais, la marque de Zilon. De l'enfance toxique au rayonnement international, de la ruelle au musée, le récit de la vie de Zilon est porteur d'espoir et de consolation, un peu à la manière d'un biopic hollywoodien. Espoir pour tous ceux qui ont été méprisés et violentés. Consolation pour tous ceux qui ont craint que la banlieue québécoise ne puisse jamais produire un artiste authentique iconoclaste. Avant que tu me poses la question, la banlieue, je crois que c'était Laval. Les visages qui composent la base de son vocabulaire visuel forment l'une des faces les plus authentiques de la ville de Montréal, dont Zilon épouse toutes les métamorphoses depuis plus de 40 ans. En plus d'être présent aux inaugurations des Foufounes électriques et du mythique bar Le Business, il a participé au Festival international de jazz à Montréal, a contribué au 375e anniversaire de la ville et a multiplié les collaborations, que ce soit avec le géant de l'industrie des jeux vidéo Ubisoft, avec l'homme de théâtre Robert Lepage ou encore avec l'Opéra de Montréal. Premier artiste canadien à s'illustrer dans le street art, Zilon s'impose. Il est incontournable. Voici son histoire.
OK, super intéressant ça.
Oui.
Alors, c'est qui Zilon?
Zilon, c'est un jeune homme qui a grandi dans la banlieue et qui a découvert assez tôt, pour s'échapper de l'univers un peu toxique de sa maison, le dessin, les arts visuels, etc., etc., la musique aussi. Et il était à l'époque du punk, du new wave et du disco.
OK.
Voilà le lien magico-magique que je fais,
ouais,
comme un grand chaman.
Intéressant.
C'est séparé en plusieurs petits chapitres anecdotiques, un peu comme une entrevue. Et l'auteur lui pose des questions et Zilon répond avec son efficacité et son ton assez particulier sur plusieurs sujets. Dont, par exemple, des choses que j'ai trouvées drôles de comment qu'il voyait comment que ça se passait à New York puis tout ça, parce qu'il est allé assez souvent à New York. Tu sais, il est contemporain de Basquiat, de Keith Haring, du mouvement graffiti, mais au lieu d'être à New York, lui, il était à Montréal.
Ouais.
À MTL 514. Fait, mais Zlon aussi, il critique les autres qui ont suivi après, puis qui ont fait que la surenchère d'artistes, tels que Mafia Art, Coons, que j'ai déjà parlé ici, qui vient de New York, Hearst, celui qui a fait Damien Hearst, qui a fait l'espèce de tête de squelette en diamant, en véritable oui. diamant, qui coûte une fortune. Fait qu'il y a tout ça. Fait qu'il parle un peu de... Il critique un peu là, la surenchère de la business. On parle de lui aussi dans un documentaire que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle Montréal New Wave. J'en ai déjà parlé avec Mathieu Beauséjour il n'y a pas très longtemps, que je salue, qui me parlait de...
DJ Matt.
DJ Matt, oui, Matt Rock. Et là, c'était à cette époque-là, la genèse de ce qui distingue Montréal à ce moment-là, à cette époque-là, c'était le début du cirque. Qu'on n'aimera pas, mais qu'on sait, le Cirque du Soleil.
Le Cirque du Soleil.
Le théâtre, la danse et les jeux vidéo. Jeux vidéo, Zlon, par la suite, a été approché par Ubisoft,
ah.
qui était un peu craintif de voir de ces images dans les jeux vidéo. Mais ils ont donné un peu carte blanche et il a pu mettre son grain de sel sur certains jeux.
Quel jeu, sais-tu?
Non, je ne sais pas. Là, tu m'en demandes. Moi, je ne suis pas un gamer, fait que je ne sais pas exactement.
Mais c'est pas mentionné dans le livre.
Je m'en souviens pas, honnêtement. Ah. Je ne l'ai pas pris en note. Je l'aurais pris sinon en note. Mais
écrivez-nous si vous connaissez la réponse. Dans quel jeu vidéo Zlon a participé? Vous gagnez 3 T-shirts.
Oui, d'Assassin's Creed.
Possiblement.
Possiblement.
Mais ce n'est pas ça la réponse qu'on cherche.
C'est encore drôle. Mais c'est ça. Et là, aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, dans ce documentaire-là, à cette époque-là, moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Il y avait Safety Dance du groupe Men Without Hats,
ben oui.
qui est une vidéo que j'ai parlé justement avec Matt tout récemment.
Puis c'était une ambiance de cirque, notamment carnaval.
De carnaval, d'espèce de fête foraine médiévale.
Ouais.
Les gars avaient été parachutés en avion, vu que le hit était chaud, puis ils voulaient le développer en Europe. Fait qu'ils sont allés dans une fête médiévale qui n'avait rien à voir. Ivan Dorochuk, dans la vidéo, il y a comme une espèce de chemise blanche à frou-frou avec une veste. C'est de toute beauté. Allez taper Men Without Hats. Safety Dance, super bonne tune, mais la vidéo, il est assez étrange. Et là, on apprend qu'en 79, tous les bars qui ouvraient, fermaient, et un certain bar qu'on fréquente encore parfois, qui est sur la rue Sainte-Catherine, pas loin de Saint-Laurent, c'est les fameuses Foufounes, électriques de leur nom de famille. Et là, qui avait été les instigateurs, c'était un certain membre du parti Rhinocéros, un résistant dans l'absurde, un certain
Monsieur Hugo.
François Gour, exactement. Exactement. Et là, moi, j'ai appris quelque chose. Je n'avais jamais fait le lien. Il y avait les peintures en direct, j'ai déjà participé. Mais avant de s'appeler les peintures en direct, ça s'appelait 3x4. Mais moi, je
3x4.
3x4, c'est quoi, tu penses?
C'est un format de toile.
Un morceau de robot pour toi? Il y a un robot en arrière de toi?
Yes!
C'est 3 pieds par 4 pieds.
Okay.
C'était le format que tous les artistes avaient et devaient créer une œuvre là-dessus.
Okay.
Moi, quand j'ai participé, tu vas avoir ta petite toile 16 par 20, 3 par 4, tu vas avoir une 5 par 5. C'était plus libre à ce moment-là. Mais au début, avec les peintures, les soirs de peinture en direct, où est-ce qu'il y avait des fois jusqu'à 22 peintes, ben, il y avait un certain Zlon, un certain Bob Desautels, un certain Michel Penneau, un Pierrot Gaudreau, des artistes là, de la première époque qui faisaient les peintures en direct. Bob Desautels, il est encore souvent dans le décor puis tout ça. Là, c'est un vieux de la vieille, même s'il est souvent en République dominicaine. Mais ça, c'est mais là, je fais mon coco Douglas, je veux pas rentrer là-dedans.
Potin,
jet set. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles d'avoir vu DJ Champion au festival de jazz gratuit Avant que ce soit la place des spectacles. Je pense que c'était pas...
Ouais.
C'était en...
C'était le même endroit, mais c'était pas la place des festivals.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est-tu le show qu'il faisait avec les guitaristes? Il y avait les...
Les G-Strings. Ça, je suis pas sûr. Mais je sais qu'il a fait une performance... quand DJ Champion a joué là, c'est peut-être ces fameux G-Strings, il a fait le festival de jazz. Il a fait une performance live en direct en peinture. Et là, c'est ça. Fait qu'il, c'était incroyable. Là. Il peignait live pendant que le DJ faisait son set. Fait que c'est tout ça qu'on apprend dans ce livre-là. La seule bémol, Zlon, c'est visuel. Et je trouve que, oui, un CV, un curriculum vitae, j'ai de la misère à dire ça ce matin, avec toutes les expositions de musique qu'il a faites, les expositions individuelles, les expositions de groupe, mais... collective, les projets à l'international, les autres performances multidisciplinaires, mais je trouve qu'il manque de visuel dans son dans ce livre-là. Il n'y a aucune image de qu'est-ce que fait Zlon. Fait que si tu es un néophyte, tu ne connais pas ce que fait M. Zlon, tu ne sais pas à quoi il fait référence.
C'est un peu plate, c'est un artiste visuel.
Oui, puis il aurait pu au moins mettre juste l'espèce de silhouette. C'est sûr qu'en Lando, on voit Zlon faire les débuts, on va dire, de la préhistoire de son graffiti, les espèces de silhouettes sur un mur de briques.
C'est des visages, en fait,
qu'on voit. C'est des visages qu'il fait souvent, oui. Qui sont androgynes. C'est à la David Bowie, entre l'homme, la femme. On ne sait pas s'ils sont contents, heureux, malheureux. Est-ce qu'ils sont gentils, pas gentils? C'est tout ça, l'univers de Zlon. Et là, j'essaie de trouver, pendant qu'on va mettre la musique, je vais te retrouver dans quel jeu Zlon a prêté de son visuel.
Pour les jeunes qui nous écoutent, jeunes étudiants qui sont déjà de retour en classe,
vous devez le savoir.
Si vous êtes des amateurs de jeux vidéo de la compagnie Ubisoft, nommez un jeu dans lequel Zlon...
C'est illustré, hein? C'est bien dit.
Apparaît. Illustré.
Illustré, oui.
Alors, on y va en musique, Marc-André?
Exactement. Écoutez ça, les amis, dans la peau d'un chef.
Le temps est si bref, je te jure, dans la peau d'un chef. Bisson à bisson, dans la famille, on a tout F. Bref, j'encaisse tout ce que j'entreprends vaut de l'or. On m'a nommé ministre du sport. Continuons à jouer au foot sur les pierres. Laissons la BR à la médecine et à nos grands-pères. Fiers car l'esprit sportif règne sur les terrains. La corruption a fait de moi le ministre le plus malin.
L'argent appelle l'argent.
Le bénéf, moi j'encaisse, je laisse rien dans la caisse.
Mongo est copain d'un mongo.
Le temps est si bref, juste dans la peau d'un chef.
On m'a nommé. Je jure fidélité à ma patrie. Prie pour le développement de mon pays qui
sombrait dans la décadence.
Faites-moi confiance, je jure de me bourrer la panse.
On lui a dit.
Ministre, on vous confie un portefeuille. J'ai reculé d'un pas et là j'ai dit faut que je me recueille. L'aménagement du territoire, changer vos paysages. On dort très bien dans nos villages. Moi,
l'argent appelle l'argent.
Rien du bénéfice, je laisse rien dans la caisse.
Mongo est convaincu à Mongo.
Le temps est si bref, dans la peau d'un chien.
Le rhinocéros, le boss, président chef des armées aimé. Malonga, Pamba, Passi, premier. Complice et ma famille, tant pis, on pille le pays. Le doyen qu'on respecte, m'a mis les coups des têtes. Puis je négocie ce qui vaut 100, j'en dis, je prends le pognon. Garde rapproché, fétiche, peuple fauché. Faut te reprocher, ma démocratie a chié. Allez pour moi, t'as vu rouge, que le peuple bouge.
L'argent,
appelle
l'argent.
Le bénéfice, j'encaisse et je laisse rien dans la caisse. Bref, le temps est si bref, dans la peau d'un chef.
Benji à la tête du siège de la classe économique. J'organise, je répartis, je compte la thune, je gère le fric. Je suis le responsable des richesses du pays. Maintenant tu sais qui gère les entrées et les sorties. Non, je n'oublie pas quand il Thérèse. Et mon petit neveu Blaise, que je mets à l'aise. En règle congolaise, tant qu'à faire, autant sortir mes frères. De la demeure, le temps passe vite dans la peau d'un chef. Donc j'assure mes arrières.
L'argent appelle l'argent.
Le bénéf, moi j'encaisse, je laisse rien dans la caisse.
Mongo est convaincu à Mongo.
Le temps est si bref, dans la peau d'un chef.
Je suis la plus grosse robe car la terre n'est jamais portée. Dévaluée, surévaluée, escortée par un escroc salué. Tali évalué, on poisson sur le marché. J'ai comparé un pygmée à un géant. Je suis archi-gris, marché, business d'état. Je passe de main en main et d'état Beretta. Ou PMA putain couvert de cendre en état. À qui je profite, mon pote au chef, Afrique et UNICEF. Je suis dans la peau du CFA.
L'argent appelle l'argent.
Ouais, je suis le bénéf, je suis le bénéf. Pour moi les négros se blessent.
Mongo est
le temps est si bref, je jure dans la peau d'un chef.
Le ministre de la justice. et le programme est strict.
On tasse des malfrats dans les prisons, même s'il n'y a plus de place là pour les os. Du pain sec, de l'eau et des coups de bâton. La sentence en fera perdre la raison, non, 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 non.
Pour le condamné, pas de sursis que des peines considérables. Pas moins de 3 mois pour survivre dans cette étable.
L'argent, appelle l'argent.
Les bénéfices, moi j'encaisse, je laisse rien dans la caisse.
Mongo et combien à Mongo.
Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un chef.
Dans mes poches, Bongo Zajingi, Lusingi, Mutsongi, sorti du Bissona, Bisso, gouvernement Bongi. Je danse le Dombolo, je fais Ngolongolo. Quand j'arrive, les mystiques crient. Ministre de la pêche et de la pisciculture. J'ai trouvé un bon jet pour mes affaires, j'ai une couverture. Chez moi c'est comme le poisson salé, les factures sont salées. Et avec mes amis on est haut placé.
L'argent, appelle l'argent.
Le bénéf, j'encaisse, je laisse rien dans la caisse.
Mongo et Kobega Mongo.
Le temps est si bref, dans la peau d'un chef.
Ah ben, ah ben, ah ben.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce de Bisso Nabisso. Merci pour le back vocal, Marc-André.
Dans la peau d'un chef, je suis là pour toi comme on est, c'est réciproque. Là.
C'est réciproque, effectivement.
I've got your back, you've got my back.
Dans le dos. Dans le dos. Alors, Bisso Nabisso qui nous vient de...
C'est un collectif de rappeurs français de la old school. Il y avait des membres dont Passy qu'on connaît bien. On connaît les Nègres Marrons et tout le secteur A, Arsenic et compagnie. C'était leur premier album, Bisso Nabisso, Racine, paru il y a dans une galaxie lointaine, il y a très, très longtemps. Et c'est écrit petit, et je cherche, et je ne trouverai probablement pas. C'est pas 1999.
OK.
Et dans la peau d'un chef, ben, Zilon, c'était un chef. C'est toujours un chef de l'art visuel. Je rappelle le livre, Jean-Marc Beausoleil a écrit La marque de Zilon. Et pendant la pause, on a triché. On fait ça, nous, des fois, dans notre bunker. On reçoit des ondes du 5G, du Wi-Fi. Et on a su dans quel jeu Zilon s'est illustré.
Alors, c'est le jeu de Ubisoft Montréal qui s'appelle Far Cry New Dawn.
Exact.
Allez jouer à ça. Tous les jeunes qui nous écoutent, qui ont déjà joué à ça, parce que ce jeu-là est sorti, existe déjà.
Oui.
J'ai aucune idée c'est quoi ce jeu, mais dans le décor...
Il y a un petit côté apocalyptique, je pense.
C'est ça. C'est comme une espèce d'ambiance post-apocalyptique. Et il y a comme des graffitis sur des vestiges, là, des carcasses de voitures, notamment. Et,
il y a la griffe de Zilon.
Il y a des graffitis signés Zilon, le seul et unique lui-même.
Oui. Moi, j'ai vu de ses expositions quand il était représenté par Yves Laroche dans Le Vieux. Après ça, on l'a vu aussi au Bain Mathieu sur dans le coin d'Ontario. Mais c'est quoi le nom de du Bain Mathieu?
Sur Ontario?
Oui, c'est sur Ontario?
Oui.
En tout cas, il y avait une rétrospective une couple d'années avant la pandémie sur ses œuvres. Et tout récemment, au Musée des Beaux-Arts du Mont-Saint-Hilaire, il y avait le lancement du livre et d'une exposition. Fait que je suis depuis une couple d'années et c'est très le fun de voir son évolution.
Et il est encore vivant, le monsieur?
Toujours vivant.
Toujours vivant, donc ouais. C'est une légende vivante.
Exactement.
Donc, si vous avez la chance de le croiser, dites-lui bonjour.
De notre part. Et on va continuer avec un autre artiste québécois qui est dans un autre secteur d'activité, si je peux me permettre. Jake Dion.
Ah!
Là, toi, tu le connais. Chanson noire.
Jake Dion qui avait repris...
Oui, monsieur.
Alice au Pays des Merveilles. En fait, Alice de Patrick Sénécal.
Oui. Même si la musique est douce et entraînante, elle peut vous mener au pire. Après avoir récemment illustré, comme tu dis si bien, le roman graphique Alice, A-L-I-S-S, et non Alice, A-L-I-C-E, tiré de l'œuvre de Patrick Sénécal, ainsi que Turbo Kid et les Amos d'Aragon, Jake Dion nous invite pour la première fois dans son propre univers avec des textes dont il est l'auteur.
Ah, wow!
Au fil des pages, il nous entraîne inexorablement, ça se dit très bien le matin, ma mémie Momu, vers la noirceur dans ce récit d'horreur existentialiste, nulle part et quelque part au Québec, au milieu des années 70.
OK.
Tu sais que j'aime les années 70, j'en ai parlé l'autre
moi
fois.
Moi aussi, j'aime ça.
Oui, on est de cette époque-là.
Puis je suis né dans les années 80.
Oui.
Explique-moi ça.
Ben, je sais pas. Parce que ta famille, ton...
Parce que dans les années 80, ben, je pense que
c'était poche.
Tout ce qui restait, tout ce qui était...
Tout ce qui était cool venait des années 70, finalement.
Tout ce qui est resté des années 70, il y a des choses qui sont restées longtemps.
Oui.
Donc, j'étais témoin.
OK.
Donc, les vieux divans, par exemple, chez nous,
c'était... Ils dataient des années 70.
Des vieux meubles
ouais.
en bois. Les vieilles télés en bois.
Oui. Le macramé, ses murs.
Exactement.
Les meubles rococo.
Alors, est-ce que tout ça est illustré par
oui.
Dick Dion?
Oui, bien, c'est un couple... c'est drôle que ça se passe dans les années 70, mais c'est un couple qui va de la ville, la grande ville, à la campagne. Fait que c'est comme l'exode pas rural, ça serait l'exode contraire.
Ouais.
Et ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans les dernières années, le retour à la nature. Fait que ce couple-là, qui est jeune, qui n'a pas d'enfant, décide d'aller en campagne à la maison de la grand-mère de cette femme-là. Elle reprend possession de la maison, qui a besoin d'amour, qui a besoin de réparation et tout ça. Et le jeune couple se lance ce défi-là. Et ils partent aussi avec leur petit pitou. Et c'est là que commence l'aventure. Et le je ne sais pas si c'est son alter ego, mais le personnage masculin est un dessinateur de bande dessinée et de dessin et d'art visuel.
Okay.
Elle aussi a un petit côté artistico. Et ensemble, ils vont essayer de rénover leur nouveau lit nid d'amour. Mais il y a des choses étranges. Et même si la maison est en campagne, éloignée des voisins, il y a des voisins bizarres qui se promènent dans l'environnement du couple. Et sur le terrain, qui est non clôturé, parce qu'on est en campagne, on est dans les années 70, il y a un arbre géant qui est comme mort, que les feuilles ne poussent pas et qui est un peu mystérieux. Fait que il dégage une énergie un petit peu, on va dire, surnaturelle. Et c'est là que l'histoire commence pour le couple. Fait qu'il y a un côté très, je dirais, c'est en couleur, le dessin de M. Dion est sur la coche, côté très psychédélique. Toi, tu as déjà lu Alice. C'est encore ici une fois, c'est pour public averti.
Ouais.
Et les couleurs, ça joue souvent dans des tons. Ça fait très 70, je trouve, des tons jaunes, orangés, rouges. Et son coup de crayon est un peu sketchy. C'est très le fun. Beaucoup d'hachures pour les ombres et tout ça. C'est super intéressant. La nuit, un peu plus bleutée. Mais il y a des scènes un peu plus olé-olé ou psychédéliques. Et là, les couleurs deviennent mauve, bleu. Et là, c'est le paquet. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est au lieu d'être des cases, on va dire, normales, le dessinateur, le créateur s'amuse à briser les codes, à prendre deux pages pour... tu trouves le livre là, dans le milieu, là, c'était deux pages. Et là, les cases, c'est comme des espèces de vitres cassées. C'est vraiment... les formes sont... Il détruit le format, tout simplement. Fait que c'est super intéressant. Il y a un petit côté, je pourrais dire, si vous avez aimé Stranger Things, si vous n'êtes pas encore tanné, ben il y a un petit côté dans les couleurs, dans l'univers un peu space, mystérieux, ésotérique, fort intéressant. Ça s'appelle Chanson Noire. Je ne vais pas vous en dire plus, mais il y a un petit côté aussi Adam et Ève et un retour à la nature, mais pas comme on le pense. C'est paru sur Glénat, qui est une maison d'édition française, mais qui s'intéresse au marché québécois, je crois, aux artistes québécois.
Ah ben.
Tiens, je te le
merci de me le passer, parce que je vais aller le lire. Fait que, on se revoit dans une demi-heure?
Oui, tu as le temps, une demi-heure, tu as le temps, je pense.
À tantôt.
En parlant de Glénat, ils ont sorti un autre bande dessinée qui s'appelle Esmera. Qui est de Vince et Zep. Zep, c'est un auteur qui fait des scénarios incroyables, et Vince au dessin, que j'ai peut-être déjà vu ailleurs. Et Esmera, c'est, regardez bien, là, c'est public averti, censuré, mettez la main sur des oreilles sensibles. L'orgasme masculin, il monte comme une fusée. explose en plein ciel et te laisse seul. Le féminin, je descends, je m'enfonce, je me dilue et je deviens le monde. Je m'appelle Esmera et je suis accro aux deux. Un vertige pornographique imaginé par Zep et Vince. Vince. Incroyable. Le dessin est sur la coche. 18 ans et plus, c'est recommandé. En gros, c'est une fille qui a étudié dans les années 70 en Italie dans un couvent de bonnes sœurs, un cloître, vraiment juste des étudiantes modèles et qui à peine ont des fréquentations avec les garçons, ils vont à peine au cinéma. Et là, à un moment donné, cette jeune fille-là, elle termine ses études et elle s'en va dans une plus grande ville en Italie, qui n'est pas nommée. Et là, elle découvre le libertinage à ce moment-là, des années 70. Mais là, elle n'atteint jamais l'orgasme avec ses amants de passage. Mmh. Mais au moment qu'elle découvre qu'elle a son premier orgasme, elle se transforme en garçon.
Oh!
Et là, quand elle est en garçon, il faut qu'elle fasse l'amour avec une femme. On pourrait le faire avec un homme si elle veut. Il faut qu'elle atteigne l'orgasme encore pour redevenir femme.
OK.
Fait que ça, c'est la prémisse du scénario. Fait que déjà là, il y a un petit côté Twilight Zone.
C'est vrai.
Mais c'est très, très cool. Le scénario, il est solide. C'est un peu bizarre comment je le décris, mais c'est assez dur à décrire. Mais c'est sur la quête de l'orgasme, mais qui te transforme soit du bord masculin, soit du bord féminin. Fait qu'elle est en symbiose avec son côté féminin et masculin. C'est dessiné en noir et blanc. C'est le trait clair. C'est assez réaliste. Les yeux un petit peu plus, on va dire, globuleux. Mais overall, très bien dessiné, un petit peu excitant. C'est très bien fait. Je vous le recommande. Je te le passe.
Alors, le titre, c'est?
Esmera, le nom du personnage principal qui est à la recherche des plaisirs interdits.
Intéressant, Marc-André. Et surtout très osé.
Très osé. Osons. Là, on va aller en pause parce que je sais que tu vas me regarder avec des gros yeux.
C'est l'heure de la pause.
Et je vais revenir avec quelqu'un qui est curieux.
Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est le lendemain de la veille. Avant la pause, on parlait bande dessinée avec Esmera et Chanson noire de Jake Dion. Et on continue avec une autre bande dessinée, Marc-André?
Non, cette fois-ci, c'est deux bandes dessinées adultes. Mais moi, je pense aux tout-petits. Mais là, je pense aux 7 à 77 ans. Quoi de mieux pour les 7 à 77 ans? Tintin, Astérix. Mais surtout, une nouvelle série, Lucky Luke, ben oui, c'est vrai. Mais on oublie un aussi, de la Trinité, il y avait qui d'autre?
Spirou.
Ouais, j'ai moins embarqué, moi.
Bolébil.
Bolébil, ouais.
Gaston Lagaffe.
Les Schtroumpfs. C'est quoi en espagnol, les Schtroumpfs?
Los Schtroumpfs.
Non. En anglais, tu sais c'est quoi?
Smurfs.
Ouais. Moi, quand on m'a expliqué en espagnol la première fois, il y avait un petit garçon qui habitait dans le même building que moi. Puis sa mère me disait « Has visto mi pitufo ».
Pitufo.
Et moi, je ne savais pas c'est quoi un pitufo.
Pitufo.
Okay. Et là, elle me disait « C'est les petits bonhommes bleus ». Mais j'ai pas vu de petits bonhommes bleus. Puis un pitufo, vu que c'était bien à la mode dans ce temps-là, c'était les schtroumpfs. Los pitufos, c'est les schtroumpfs. La pitufa, c'est la schtroumpfette.
Okay.
Mais là, je reviens de loin, un callback. Si vous m'écoutez depuis le début, si vous n'êtes pas tanné de m'entendre, mais que vous voulez lire, voir un livre hallucinant, et le mot est faible, c'est un livre écrit par Mathias Picard, j'en avais déjà parlé, une série qui s'appelle Jim Curious, c'est en français, c'est un auteur français, et là, cette fois-ci, notre personnage principal, Jim Curious, c'est Voyage au cœur de l'océan.
Okay.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier de ce livre-là? C'est qu'il n'y a aucune parole. Il y a des cases comme dans une bande dessinée, mais pour le lire, que vous soyez myope ou presbyte ou non, ou une vision de lynx à 100%, vous devez porter des lunettes qui ont une couleur rouge et une couleur
Bleu.
Bravo, morceau de robot.
Comme les vieilles lunettes 3D des années 50.
Pour les films qu'on écoutait à la télé et que ça ne fonctionnait pas.
Oui.
Mais pour ce livre-là, et comme pour le précédent, eh bien, ça fonctionne. C'est que notre personnage Jim s'en va avec son scaphandre. Il plonge dans les fonds marins. Il descend, et on l'accompagne dans les profondeurs où il croise des poissons. Toutes les poissons inimaginables. Une baleine, comme tu as vu quand tu es allé dans ton expédition
à Charlevoix.
Un requin. Je pense pas que tu as vu un requin. Je pense pas que tu as vu Jaws quand tu es allé à Charlevoix. Les dents de la mer. Et une pulpe, une pieuvre, tout ça. Et on croise aussi des monstres et des bêtes et des objets étranges qu'on pourrait retrouver dans la mer qui existent ou qui n'existent pas, comme des épaves de bateau, par exemple. Fait que Jim Curious est une plongée en trois dimensions qui fera le bonheur des petits et des grands. Je te le prête, mets tes lunettes.
C'est un grand livre, grand format. Oui.
Ça se lit en moins d'une heure. Ça dépend si vous êtes curieux, vous regardez tous les détails.
Alors, la seule question, c'est est-ce que l'effet 3D fonctionne avec les lunettes?
Toujours. Avec M. Mathias, ça fonctionne toujours.
C'est vrai?
Un dessin assez simple pour son personnage de Jim Curious, qui est très cartoon facile, mais les poissons, dont le requin, dont les spirales, dont les bulles, dont les fonds marins, fonctionnent très, très bien. Fait que je vous le conseille.
Donc, est-ce qu'on peut lire sans les lunettes?
Oui, mais moi, je trouve que ça donne un flou et c'est moins intéressant. Oui,
effectivement.
Ça me donne presque mal à la tête.
Ça donne mal aux yeux sans les lunettes.
Exactement.
Et je remarque qu'il y a quelques cases qui ne sont pas en 3D.
Oui, au début, quand le personnage n'est pas encore plongé et n'est pas immersé complètement dans l'eau, le 3D n'est pas là. Et quand il en ressort à la fin du livre, même chose. Mais tout le reste est trois dimensions. Il y a un petit décalage d'image.
Très cool.
Oui, très cool. Jim Curious. On continue chez nos amis français. Là, on tombe dans le cinéma. Un film qui s'appelle France.
France, comme dans France Castel.
Oui. Ou France...
D'amour.
France d'amour, exactement.
Animal.
Oui, je t'ai choisi. Ben, ça comporte l'actrice Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay. Benjamin Biolay qui est
un chanteur,
musicien, acteur, tout ça. Il fait le mari du personnage de France.
Blanche Gardin, je t'interromps, c'est une stand-up comique.
Ah, OK. Elle n'est pas si drôle que ça là-dedans, par exemple.
Ah,
mais
donc,
ouais,
bonne
okay.
comédienne.
Ah, mais je ne savais pas, OK.
Oui,
ouais, mais elle est bonne comédienne.
Elle a même son Netflix special, je crois.
Oh oui!
Je pense
ça vaut-tu la peine?
Je ne l'ai pas écouté.
Non, OK. Ouais, ben merci, je ne savais pas, j'en apprends. C'est son acolyte dans le personnage principal de France. Fait que là, ça a gagné des... j'ai le boisson entre les mains, le film est paru sur K-Film Amérique. Fait que c'est comme une importation là, pour le territoire québécois. Il a gagné le prix des médias films en 2021. Là, on met des étoiles rouges, 5 étoiles rouges, cahier de cinéma, les Inrocks. Et aussi le journal Le Monde. Mais, puis Festival de Cannes était en compétition de sélection officielle en 2021. Et j'ai oublié de dire le réalisateur, c'est tout simplement un film de Bruno Dumont, que je ne connais ni dans et ni de Ève.
Moi non plus, je ne connais pas.
Mais le film, c'est à la fois le portrait d'une femme, une journaliste à la télévision, qui fait des reportages, un peu sensationnalistes. Puis ça parle d'un pays, la France, et d'un système, celui des médias. Très bon film, je vous le recommande. Je m'attendais à rien. Je trouvais que le hype, la mise en publicité était un peu... ça avait l'air un peu pompeux. 5 minutes quand ils disent Festival de Cannes, on a gagné, on est allé là, on est bon, on est hot, nous, on est les meilleurs. Ben c'est très bon. C'est une bonne critique sociale sur le rôle de cette femme-là qui représente beaucoup de femmes qui ont une famille, qui font carrière, qui sont à la fois épouses, amantes, qui ont un rôle social, qui ont un rôle dans les médias. leurs amitiés, leur famille. C'est un bon film, je vous le recommande, je vous en dis pas plus. Si vous avez rien écouté à un moment donné, vous écoutez France et vous allez voir une critique sur comment on se fait manipuler par les médias, principalement dans ce cas-ci, un peu la télévision.
Mais est-ce que tu as l'impression, j'ai pas vu le film,
critique.
Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment plus ciblé pour les médias français? Ou est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer un peu partout?
Oui, mais je pense que ça peut s'appliquer un peu partout parce que les reportages, elle s'insère beaucoup dans les reportages. Elle s'en va où est-ce qu'il y a des migrants qui traversent des frontières en bateau de sauvetage. Elle se met dans le bateau, elle se met elle-même en scène. Elle va à des endroits où est-ce qu'il y a des conflits. Elle interview des groupes armés entre guillemets terroristes. Fait qu'elle est vraiment il y a un petit côté sensationnaliste très...
OK.
Ouais, c'est
bon, on voit ça un peu partout, je pense. Hein. C'est pas unique à la France.
Non, c'est ça. Aux États-Unis, partout dans le monde, c'est ce genre de nouveau...
Anderson Cooper, là, qui se promène...
C'est ce nouveau style journalisme qui se met en scène, qui se met un gilet pare-balles, un casque bleu, puis qui se promène avec l'ONU ou tout ça. Mais... c'est qu'on voit l'envers du décor. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour arriver à ce reportage-là.
Et je vois même sur la pochette du DVD que j'ai en main ici que même Franco Nuovo a aimé le film. Il dit « Remarquable et magnifique, Léa Seydoux ». Alors, approuvé par Franco Nuovo de Radio-Canada.
OK. Bon, avec ça, le saut d'approval est estampé.
C'est bon.
C'est bon. On pensait que c'est juste les Français qui encensaient le film. Est-ce qu'on y va en musique ou...
Let's go!
Je pense que oui. J'ai-tu changé les affaires? Oui, j'ai changé les affaires. On y va en musique.
Inquiétez-vous pas, c'est une longue introduction, mais la musique s'en vient.
Yeah!
Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est le lendemain de la veille. On vient d'écouter une pièce du grand groupe mythique Danzig.
Glenn Danzig pour les intimes, le chanteur original des Misfits.
Et c'était la pièce
Dirty Black Summer.
Black Summer.
J'espère que vous avez eu un Dirty Black Summer. Il était chaud, il était hot. On a eu chaud pour quelques secondes. Je me rappelais pas qu'il y avait un intro aussi long pour la chanson. On pensait qu'il se passait de quoi de bizarre et de mystérieux en studio.
On a cru que le CD avait skippé.
Non, moi, je pensais plutôt qu'il allait pleuvoir à l'extérieur, qu'il y avait des orages, que c'était, c'était la fin du monde.
OK.
En parlant de la fin du monde, sorti sur l'album All the God Kill, c'est le troisième album de Danzig. Il y a des. Danzig a été chanceux d'avoir ses pochettes illustrées par le non moindre artiste suisse H.R. Giger.
Oh!
Et par un autre aussi qui. Il ne l'a peut-être pas illustré, mais il est allé chercher des gens qui dessinaient dans le même style que M. Frank Frazetta, qu'on va parler à l'instant même. Je vais vous parler du film que Frank Frazetta a fait. C'est un Américain. Ça s'appelle Fire and Ice. J'ai la pochette dans les mains. Et à quoi ça peut bien te faire penser, mon ami Nelson, ce genre de pochette-là?
Ça fait penser aux films médiévaux des années 80. Ça fait penser un peu à Princess Bride ou bien le BDiste italien qu'on a déjà mentionné ici. J'ai oublié le nom.
Exactement. Mais regarde, c'est
Conan, ça fait penser à Conan.
The Barbarian, exactement. Ça, là, ce film-là, qui est, je répète, Fire and Ice, le feu et la glace, c'est réalisé, c'est produit par Ralph Bakshi, qui était le directeur de Fritz the Cat, de notre ami,
C'est
Robert Crumb, mais que Robert Crumb a jamais aimé, qu'il n'a jamais accepté. Il a toujours refusé la paternité, même si c'était son personnage. Il a tué Fritz the Cat, d'ailleurs, pour ça. Il a dirigé aussi Wizard. Il a fait aussi l'original Lord of the Rings, celui en comic dessiné.
En dessin animé.
En dessin animé, c'est lui.
Et aussi, je t'interromps, American Pop, un autre long-métrage animé de Ralph Bakshi.
Ah, je ne connais pas.
Il y avait une technique particulière à l'époque parce qu'il filmait des vrais gens.
Oui,
puis
bon.
Il peinturait par-dessus les images, donc les pellicules, pour faire en sorte que le mouvement
soit réel.
Le plus réaliste possible. C'est vraiment impressionnant à voir ces dessins animés-là parce qu'on a vraiment l'impression que s'il y a vraiment quelqu'un qui bouge, le mouvement, la fluidité du mouvement versus les dessins animés de cette époque-là où c'était plutôt saccadé.
Oui.
Parce qu'évidemment, il faut dessiner chacune des cellules, là, chaque image.
Combien d'images par seconde?
Ben, 24. Au cinéma, c'est 24. Donc, en dessin animé, c'est peut-être pas 24 par contre, je ne suis pas sûr. Mais bon, on va dire que c'est 24. Là. Mais dans son cas, à lui, on a l'impression que c'est plus que 24 parce que les mouvements sont hyper fluides.
Et c'est pas stagé, mesdames et messieurs. Nelson m'enlève les mots de la bouche. Enlève mon jus d'orange de la bouche ce matin.
Excuse-moi, je te remets.
Mais non, c'est correct. C'est la technique d'animation, tu sais comment que ça s'appelle?
Non.
La rotoscope.
Rotoscope.
Oui. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Fire and Ice. Fait que c'est le double du travail. C'est qu'il choisit des acteurs, il les filme, il les met en scène. Et là, il n'y a pas de blue screen, il n'y a pas de green screen. Et il faut qu'il fasse des... admettons, il faut qu'il grimpe des échelles, des escaliers, il saute d'une corde, ben il filme comme ça. Fait qu'il faut quand même qu'il fabrique des props, il faut qu'il fabrique un minimum de stage, de sauts, et les comédiens sont filmés, et après ça, ils arrivent avec les images, c'est des photos, et sur une table à dessin lumineuse, il met une feuille par-dessus blanche et il dessine image par image chaque mouvement. Fait que c'est un travail de moine. Et dans le film, ben, il y a deux disques. C'est une édition limitée. Eh bien, il y a le Making of, le deuxième DVD.
Il
explique comment ça a été fait. Et c'est vraiment intéressant parce que ça date à peu près des époques d'aussi. Le comédien me fait penser étrangement à celui qui jouait dans Flash Gordon. Okay. Le personnage, parce que c'est un blond avec les cheveux courts, mais il y a comme un mullet. Il y a une actrice pulpeuse. Ça, le film, l'histoire, c'est vraiment là, du fantastique. Là, il y a un méchant, il y a des monstres, des orques, puis tout ça. Puis il y a des ils se promènent avec des épées, puis des haches, puis ils se battent, puis sont habillés à peu près en Tarzan. C'est très Conan the Barbarian, là, le Connor le barbare. mais c'est très cool. Moi, je ne l'avais jamais vu ou je ne me rappelais pas de l'avoir vu. Puis il y a une reine mystérieuse et méchante qui envoie ses hommes essayer de détruire tout sur leur passage et dominer la planète. Fait que c'est super intéressant, mais qu'est-ce qui est plus intéressant que le film lui-même? C'est l'extra, le deuxième disque qui comprend Frazetta, ça s'appelle Painting with Fire. Et c'est un documentaire de 93 minutes qui explore la vie remarquable et la carrière de cet homme qui, tout simplement, a changé l'image du fantasy art forever.
Pour donc toujours. Là, juste pour résumer, c'est un film de Ralph Bakshi ou de Frank Frazetta?
Non, c'est l'artiste, Frank Frazetta. Oui. Mais le producteur, le réalisateur, celui qui est allé le chercher puis pour le mener à terme, le réalisateur, c'est Ralph Bakshi.
OK. Ouais. Donc, est-ce que c'est dessiné par Frank Frazetta?
Oui, puis une équipe, là, il n'est pas tout seul.
Oui, c'est
ça. Mais
sûr.
C'est son univers, c'est son style,
okay.
Puis tout ça. Faut dire que Frank Frazetta illustre depuis très longtemps et c'est un natif américain et il avait été approché là, dès le début pour son talent visuel par Disney et Warner, puis il avait dit non merci.
Ah.
Faut quand même, puis il y avait des enfants lui, fait qu'il faut avoir quand même les reins solides, puis faut vraiment croire en ce qu'on fait pour dire non, je vais pas aller.
Faire des petits dessins
Mickey Mouse pour Walt Disney. Pourquoi j'ai mis du Danzig? Ben, c'est dans le documentaire, il y a beaucoup d'entrevues avec des gens que l'art visuel de cet artiste-là a influencé, dont Mr. Misfits himself, Glenn Danzig. On a même Beau Derek, qui est approché aussi pour faire les Pulpeurs, qui était la Pamela Anderson de ces années-là. Beau Derek qui était la belle blonde Pulpeuse. Fait que c'est tout ça. Frank Frazetta, en gros, c'est un illustrateur, c'est un peintre. Il a fait des comics, il a fait des affiches de films. Conan, c'est une des... Tu sais, toutes les pochettes des années 80 là, qui étaient des hommes musclés, là,
oui.
Là, du fantasy, homo-érotico, c'était lui qui dessinait ça. Tu sais, des gars plus musclés que Arnold Schwarzenegger, là, tu sais, tout en soir, puis tout ça, puis les dames à leur pied, tout ça. Fait qu'il a fait des affiches de films, il fait des peintures, il a fait des films, tout ça. Il aurait pu devenir un pro du baseball, c'était un fanatique de baseball, il jouait au baseball, il a été approché d'un minor league, puis tout ça. Mais à un moment donné, il a décidé d'aller tout simplement dans les arts. Puis c'était pas nécessairement bien vu dans ces années-là. Et ça a été un super bon move parce que lui, il y a personne qui maîtrise des sujets comme la nature, les hommes, les femmes, l'anatomie des corps humains, les chevaux en mouvement et les monstres. Fait que tous les mouvements de musculature, tout ça, je pense que c'est pour ça que le producteur est allé le chercher. Il savait comment dessiner l'anatomie d'un...
Ouais.
Des tout ça. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qui est triste dans le documentaire, on apprend que notre Frank a une crise cardiaque, il devient paralysé. Tu sais, des fois, quand tu as une crise cardiaque, tu as un bar qui te lâche. Lui, il était droitier. Il a fallu qu'il réapprenne à dessiner, à tenir un pinceau. Et lui, là, c'est de l'extrême réaliste. Là. Fait que c'est dur.
C'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail. Et il est devenu gaucher.
Wow!
Il est devenu gaucher. Peintre gaucher. Puis tu vois les œuvres, puis c'est encore sur la coche.
Incroyable.
Incroyable.
Vraiment.
Fait qu'en gros, aussi dans le documentaire, on voit sa femme, sa fille, ses fils. Il y a un musée qui a été fait pour lui, de son vivant, avec plusieurs de ses pièces qui sont là. Et là, ses œuvres se vendent des prix astronomiques. Et qu'est-ce qui est très triste aussi, pendant un long moment aux États-Unis, il était boudé par ce qu'on appelle le fine art. C'est l'art noble, l'art, on va dire, de l'aristocratie.
Les beaux-arts.
Les beaux-arts snobaient comme ça se peut pas, Frank. Souvent, il se retrouvait à faire des commission art pour des choses qu'il aimait plus ou moins, mais qu'il payait. Mais à un moment donné, le vent, on ne sait pas comment, à un moment donné, ça a changé et le monde a commencé à découvrir son talent. Il a fait beaucoup de livres, des pulp livres, des livres de science-fiction qui ont eu beaucoup de succès, que tout le monde lisait. Et là, le monde a redécouvert son talent parce que seul lui faisait ce que Frank faisait. Il a été copié par la suite, mais c'est lui l'instigateur de ce genre de... C'est tout le temps comme une espèce de triangle, tu sais, un être en haut, au milieu.
Ouais.
Et là, à ses pieds, admettons, à gauche, il y a une femme, à droite, il va avoir une bébite. Fait que si tu regardes la toile ou l'image qui est faite comme une feuille blanche, ben ça fait un triangle.
Moi, ça fait penser, ben on a dit Conan.
Oui.
C'est sûrement lui qui l'a dessiné,
oui,
peut-être.
Exact.
Puis j'ai même en tête les premières affiches des Star Wars originaux.
C'est pas lui, mais c'est fortement...
Dans le style un
c'est,
peu.
Ouais, c'est fortement
Luke Skywalker qui était beaucoup plus musclé sur l'illustration que dans le film.
Puis il est dans le milieu avec son
sang blazer. Puis il y a Léa à ses pieds.
Exactement. Ouais, c'est tout
en
ça.
Triangle encore. Là.
Tout ça. Aussi, la pochette de je l'ai dit tout à l'heure, pas Conan, Flash Gordon. C'est très pulp, là, très... vieux polar des années 50. Fait, moi, je vous recommande Fire and Ice. Pour l'animation de l'époque qui est assez impressionnante avec la technique d'animation rotoscope que je ne connaissais pas et que j'ai appris.
C'est vraiment impressionnant.
C'est vraiment impressionnant, surtout qu'on le voit très bien. Et surtout pour les entrevues, on voit Danzig, on en voit d'autres. Fait que c'est vraiment intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand ça s'est reviré, qu'il y a eu avant qu'il meure un peu, Il y a un magazine américain, tu sais, en France, c'est Les Beaux-Arts, mais il y a un magazine qui s'appelle American Artists et qui rencontre des artistes américains de partout avec des styles différents. Et il y a Frank Frazetta a fini par faire la couverture et un article important sur lui dans ce magazine-là. Fait okay. À la fin de sa vie, il a été reconnu à sa juste valeur.
OK. Parce que c'est qu'il faut quand même avouer qu'il y a un réel talent qui est assez
incroyable.
Qui est assez incroyable, que c'est du hyper-réalisme.
Oui.
Donc là, on s'entend que, OK, le sujet, tu peux ne pas l'aimer.
Oui.
Des messieurs avec des hachettes, puis des cheveux longs, puis des pantalons en peau d'animal. Donc, c'est très
cliché
médiéval, aventure, puis aussi peut-être un peu trop, un peu, je vais pas dire misogyne, mais bon, les femmes sont jamais en premier plan.
Ouais.
C'est souvent des femmes objets. Mais il y a un réel talent d'artiste derrière ça.
Oui, puis juste, admettons, si tu enlèves les personnages de l'image de la couverture de Fire and Ice, juste le paysage, les roches, le rendu des roches, des montagnes, de la neige, il n'y a personne, tout le monde le connaît. Là tu vas en voir plein qui ont fait ça, mais c'est lui l'instigateur, c'est le OG de ce genre d'art visuel. Et là, le temps file comme à l'habitude, 2 minutes, et il y aurait eu encore de la musique.
Environ 1 minute, Marc-André, je te dirais.
Mais j'ai parlé de ce que je voulais parler aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à couvrir, beaucoup de bonnes bandes dessinées, des bons livres, des bons films. On vous en recommande toujours. Si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez écouter, entendre, lâchez-nous un petit coucou et on va peut-être vous écouter.
On va peut-être vous écouter. Non, moi, je dirais qu'on va certainement vous écouter.
Oui.
Et certainement, vous allez y revenir la semaine prochaine sur les ondes de CKUT 90,3.
Pour le lendemain de la veille.
Bye-bye.
Bye-bye.